Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jacques Yves Molima.
Le M23 a délibérément tué au moins 30 civils dans les zones placées sous son contrôle depuis la mi-juin. C'est ce que révèle Ida Sawyer de Human Rights Watch devant la commission des droits de l'homme Tom Latos du Congrès américain. C'était vendredi 16 juillet dernier. Et puis, Monseigneur André Giraud Pindi Mwanza a été consacré hier samedi évêque du diocèse de Matadi. C'était au cours de la messe de son ordination épiscopale officiée par le cardinal Fridolin Mbongo. À l'occasion, l'officiant du jour a exhorté le nouvel évêque d'être un bon pasteur pour l'église. Enfin, le programme d'encadrement des enfants de la rue PEDER, une structure qui travaille sur la protection de l'enfant, forme depuis jeudi à Uvira au Sud Kivu 20 acteurs locaux intervenant dans la protection de l'enfant. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Thomas Dakin, Roubamboura, coordonnateur adjoint de PEDER, Bukavu. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Le travail des enfants demeure répandu dans le secteur minier en RDC, comme d'autres violations graves des droits humains. Et il est de plus en plus difficile de relever ces défis dans un contexte de corruption endémique. Ces propos sont de Ida Sawyer, directrice de la division crise et conflits de l'ONG internationale Human Rights Watch. Elle l'a dit ainsi vendredi au cours d'un témoignage devant la commission des droits de l'homme Tom Latos du Congrès américain. Elle s'est aussi exprimée sur la résurgence du M23 en indiquant que Human Rights Watch a établi que le M23 a délibérément tué au moins 30 civils dans les zones placées sous son contrôle depuis la mi-juin. Lors de l'un des pires incidents survenus dans le village Ruvumu le 21 juin dernier, ces combattants ont abattu au moins 20 civils, dont deux adolescents, accusés d'avoir informé l'armée congolaise de leur position et de leur cachette, a-t-elle précisé. D'autres détails avec vous, Alain Rung.
Dans son témoignage, Ida Sawyer affirme que certaines personnes ont été tuées alors qu'elles tentaient de fuir, d'autres exécutées à bout portant. Des civils ont également été blessés par des attaques manifestement indiscriminées des forces du M23. Deux garçons âgés de 6 et 7 ans ont été tués par un obus du M23 qui a atteint une aire de jeu à Biruma, une femme et un enfant par des tirs de mortier du M23 à Kisiza et Katwa, et un obus qui aurait été tiré depuis le côté rwandais de la frontière a détruit une école primaire à Katali. Quelques heures plus tôt, des obus avaient atterri en territoire rwandais, blessant grièvement une femme et son bébé de 10 mois et détruisant culture et infrastructures. Le fait de ne pas avoir traduit en justice les commandants du M23 pour des crimes de guerre passés leur a permis de se livrer à des nouveaux abus aujourd'hui. Les États-Unis, sous la direction de l'ancien envoyé spécial pour les Grands Lacs, Russ Feingold, ont joué un rôle essentiel pour mettre fin à la menace posé par le M23 en 2013, notamment en faisant pression sur le Rwanda pour qu'il arrête son soutien à ce groupe armé, précipitant ainsi sa défaite et forçant ses dirigeants à fuir au Rwanda et en Ouganda, indique Ida Sawyer.
Ida Sawyer a aussi ajouté que les dirigeants du M23 sont restés en liberté, protégés effectivement de la justice par le gouvernement rwandais et ougandais, bien que nombre d'entre eux figurent sur les listes de sanctions des États-Unis et de l'ONU et soient visés par des mandats d'arrêt congolais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Ituri, la cohabitation pacifique entre communautés s'installe progressivement. Ainsi, dans les territoires de Djougou, la société civile locale indique que les différentes communautés de ce territoire cohabitent pacifiquement depuis bientôt un mois. Elles fréquentent désormais les mêmes marchés, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années. Selon le coordonnateur de la société civile de Djougou, l'engagement du groupe armé IRDPC-CODECO au processus de paix et donc la diminution des exactions contre les civils sont à la base de cette culture du vivre ensemble qui s'installe progressivement dans cette entité. Cependant, Gilles Tchouba invite le gouvernement congolais à rendre effectif le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale PDDRS pour consolider cette cohabitation pacifique intercommunautaire. Il a été joint au téléphone par Clarisse Ziyundula.
Djoula, c'est un marché qui se trouve à Walendu-Piti, qui est à la limite entre Walendu-Mbaïma-Nord et Walendu-Piti. Ce marché maintenant est fréquenté. Ça, c'est ce qui ne se faisait pas avant. Ça, c'est le grand changement qui s'est fait quand même. Alors, quand on est fréquenté par Walendu-Tati, et là, cargo aussi fait par le Walendu Tati. Ce sont les machines de Bahama qui sont faites par le Walendu. C'est quand même un beau pas qu'on est en train d'observer. Et ça, c'est fait un peu spontanément et normalement. Ça, c'est quand même un pas positif. Mais l'unique pas qui traîne les activités nécessaires ne sont que les problèmes de désarmement.
Pendant ce temps, Nord Kivu, l'insécurité reste un problème majeur auquel se heurtent nombreux réfugiés en province. Quelques réfugiés urbains vivant à Goma ont exprimé cette préoccupation lors d'une rencontre avec la presse organisée vendredi dernier par le HCR. En ce moment où la rébellion du M23 ressurgit dans la région, ce dernier exige plus d'assistance de la part des autorités congolaises et des organisations internationales en charge des réfugiés. Bernard Nyangi.
En 2018, des personnes inconnues s'étaient introduites chez nous ici à Goma et tuaient le petit frère de mon mari. Et 2 mois plus tard, d'autres ont tué ma petite sœur et mon fils cadet. À chaque fois qu'il y a des attaques telles celles du M23, nous sommes obligés de nous déplacer. Et donc, nous vivons constamment en insécurité. Nous remercions le HCR, l'AIDES et la CNR pour leur soutien, témoigne cette femme réfugiée au Rwandaise de plus de 50 ans. Celle-ci souhaiterait voir sa famille réinstallée loin ailleurs pour sa sécurité. En réponse à cette préoccupation, la chargée de protection du HCR à Goma déplore de son côté leur incapacité à satisfaire entièrement à ses besoins de protection pour les réfugiés manifestants. Un tel cas de vulnérabilité, Madame Nora Staunton.
Les réinstallations dépendent des pays qui offrent des places. Ce n'est pas la décision de HCR. En ce moment, estimation globale, on dit que 1% a une opportunité d'être réinstallé.
Selon le HCR, le Nord Kivu compterait aujourd'hui environ 160 000 réfugiés, nombreux étant des Hutu-Rwandais. Mais parmi ces derniers, moins de 2500 vivants à Goma sont vraiment pris en charge par le HCR et ses partenaires. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, une accalmie relative s'est observée ce samedi sur la zone de combat entre les FARDC et les M23 dans les territoires de Rutshuru. Selon plusieurs sources à Rutshuru, cette situation dure depuis mercredi dernier où les derniers échanges de tirs avaient eu lieu près des collines de Kanombe et Ruvumu dans le groupement de Kisigari. Les sources de la société civile dénoncent des cas de pillage, de récoltes et autres biens de population en déplacement dans la zone occupée par les rebelles. Selon les sources onusiennes, dans le cadre des efforts de protection des civils, les casques bleus de la MONUSCO déployés dans la zone ont lancé jeudi une patrouille de domination de terrain entre le pont Rwanguba et le village de Kabindi. Ce pour atténuer les menaces sur cette zone tampon entre les deux belligérants FARDC et M23 sur le tronçon routier Rutshuru-Bunagana. Et puis une délégation des officiers militaires de pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, est arrivée vendredi à Beni. Conduite par le général-major Jeff Munyanga de l'armée kenyane, elle s'est entretenue avec le commandant du secteur opérationnel Sukula 1 Grand Nord des FARDC, couvrant la région de Beni, Butembo et Lubero. Selon le porte-parole de l'armée dans la zone, les officiers militaires de l'EAC voulaient avoir une idée générale de la situation sécuritaire à Beni. Un accent a été mis sur l'activisme du groupe terroriste ADEF et des groupes Mai Mai, précise le capitaine Anthony Mwalushai. Avant l'étape de Beni, les officiers militaires de l'EAC ont effectué une mission similaire à Bunia en Ituri. Ils se sont ensuite rendus à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. À Butembo maintenant, une caravane des élèves du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord a été brutalement interrompue hier samedi par des éléments de l'ordre au centre commercial. Ils quittaient l'enceinte de leur établissement scolaire pour l'hôtel Butembo à une distance de plus ou moins 1 km où était prévue la cérémonie des proclamations. Cette situation a provoqué une grande panique chez les enfants, indiquent des témoins. Les élèves ont atteint leur lieu de destination en petits groupes plusieurs minutes après. Reportage Florida Kambo.
C'est sur la rue Julien Paloukou, ex-rue Kinshasa, où l'effet s'est produit à quelques mètres du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. Des éléments de la police et des militaires à bord des pick-up se sont interposés devant les enfants pour les empêcher de poursuivre la caravane. D'après eux, c'était sur ordre du maire. Les taximens se sont aussi invités à la scène par des klaxons. Un des parents accompagnait les enfants déplore cet incident.
On a essayé de réclamer, mais ça n'a pas tenu jusqu'à ce que les policiers et les militaires se sont bagarrés même au cours de la route. Alors les enfants ont fui. D'ailleurs, il y a d'autres 7 à 8 qu'on a accompagnés là à l'hôpital à Matandi. Ils étaient vraiment traumatisés.
Stéphane Kalundero, gestionnaire du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, indique que la dite caravane était autorisée par le maire de Butembo qui, selon lui, était déjà saisi pour la cause.
Nous avions écrit une lettre à M. le maire qui nous a autorisé de faire la caravane. Nous sommes inquiets par le fait que nous avons été arrêtés.
Contacté, le maire de Boutembo, Moabaye Kitele Roger, dit avoir plutôt autorisé le déplacement des enfants à bord de leur bus scolaire et non par une caravane pour épargner les enfants des probables cas d'accident sur la voie publique. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Sud Kivu, un député provincial élu du territoire d'Idjoui dénonce les tracasseries dont seraient victimes les pêcheurs et armateurs de pirogues sur le lac Kivu. Freddy Maïcha accuse la force navale et la police lacustre d'ériger les barricades sur le lac avec des risques de noyades des passagers. Ce service de sécurité exigerait des sommes d'argent allant jusqu'en 100 000 francs congolais. Mais aussi, ce même service aurait saisi une centaine de filets avec des frétins dont le retrait est conditionné par le paiement des amendes allant jusqu'en 100 000 francs congolais. On écoute le député provincial Freddy Maïcha.
Chaque matin, certains éléments de la force navale et de la police lacustre font le tour sur le lac Kivu, dans les territoires d'Idjoui, Kalehe, Kabare, en train de saisir les filets, prohibés ou non, et conditionnent le retrait de ces derniers par le paiement illégal d'une somme d'argent qui varie entre 50 et 100 000 francs congolais. Et par hasard, si vous n'avez pas prouvé cette somme au courant de la journée, vous passez quelques jours après, on vous dit qu'ils ne sont pas là pour garder pour vous les filets, et comme ça, le filet est porté disparu. J'ai demandé à monsieur le gouverneur de rappeler aux responsables de l'armée et de la police au niveau de la province, afin que leurs éléments travaillent dans le respect de leurs missions traditionnelles. Donc pour l'armée, ils sont là pour protéger le territoire national contre l'ennemi intérieur et extérieur. Et pour la police, ils sont là pour protéger les personnes et leurs biens et non tracasser la population ou insécuriser la population.
La police lacustre de Bukavu rejette ces accusations. Cette unité de la police indique faire son travail selon les règles qui interdisent l'utilisation des filets maillants. Également, l'interdiction de pêcher dans les baies du lac Kivu, qui sont des endroits considérés comme maternité pour les poissons. Nous l'avons dit au sommaire. À Matadi au Congo central, Monseigneur André Jiro Pindi Mwanza a été consacré hier samedi évêque du diocèse de Matadi. La messe de son ordination épiscopale a été officiée par le cardinal Fridolin Ambongo en présence de nombreux évêques et prêtres dont le nonce apostolique. Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté l'autorité diocésaine d'être un bon pasteur pour l'Église. Nana Plurishimambo a assisté à cette cérémonie. Suivez son reportage.
C'est à 11h25, heure de Matadi, que Monseigneur André Jiro Pindi Mwanza a été investi nouvel évêque du diocèse de Matadi. Dans son homélie tirée du livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 4, le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté le nouveau pasteur du diocèse de Matadi à diriger l'église avec l'élan d'amour.
Laissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur.
L'amour, le travail et une franche collaboration sont les vœux émis par Monseigneur André Jiro Pindi dans son premier message en tant qu'évêque.
Je vous aime tous. Aujourd'hui, je suis votre. J'en appelle de tout cœur à l'unité diocésaine. Nous avons le devoir de marcher ensemble, synodalement.
À l'issue de cette cérémonie eucharistique, tous les clergés, religieuses et religieux, ainsi que les laïcs, ont fait allégeance au nouvel évêque en lui déclarant leur obéissance et leur collaboration. Le nouvel évêque du diocèse de Matadi a reçu plusieurs cadeaux. Théo Chilumba, conseiller à la présidence de la République, lui a remis au nom du chef de l'État une Jeep neuve et une enveloppe de 50 000 dollars. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Notons que Mgr André Jiro Pindi Mwanza a été nommé évêque du diocèse de Matadi par le pape François en date du 23 avril dernier. Le nouvel évêque de Matadi est devenu vicaire général du diocèse de Matadi en 2013. C'est en 2021 qu'il est nommé administrateur apostolique du diocèse de Matadi après le décès du feu Mgr Daniel Andoumaï, évêque émérite de ce même diocèse. Identifier les ambitions des potentiels candidats aux élections de 2023, c'est l'un des objectifs du regroupement des femmes membres des partis politiques de l'Union Sacrée qui a vu le jour ce samedi 16 juillet ici à Kinshasa. Au cours d'une conférence de presse, Cathy Kalanga, coordonnatrice de ce regroupement, a indiqué que sa structure a également comme priorité de sensibiliser les femmes congolaises sur les notions fondamentales des questions électorales. Cathy Kalanga est au micro de Paul Matendo.
Ces regroupements nous permettra de nous connaître et de connaître les ambitions de tout un chacun dans son parti respectif, parce qu'au sein du regroupement, nous, on ne peut pas aligner les candidats. Le chef de l'État nous a montré combien il est motivé à promouvoir la femme congolaise. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir qu'il y a plus ou moins 30 à 40% des femmes qui sont dans la gestion de la chose. Alors on se dit, ce n'est pas assez. Merci d'abord pour cet effort, mais ce n'est pas assez, on en veut plus. Et nous sommes là pour que l'article 14 puisse être mis en applicabilité, qu'aux échéances de 2023, qu'on puisse retrouver la femme majoritaire dans notre pays. Parmi nos priorités, on se dit, la femme, elle vit éloignée de la politique et nous, on ira vers cette femme-là. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique active, mais au moins dans son secteur, qu'elle puisse y avoir ne fût-ce que des notions élémentaires, parce que quand il arrivera au moment des élections, ce sont ces femmes-là qui iront dans des bureaux de vote pour.
Actualité internationale.
Deux ponts ont été dynamités par des groupes armés au Burkina Faso dans la nuit de vendredi à hier samedi, après avoir détruit le pont de Woussé, obligeant un convoi censé ravitailler la ville de Djibo à revenir à Kongoussi. C'est celui de Naré qui a subi un second dynamite. Ces deux attaques pourraient illustrer une nouvelle tactique selon les analystes, exploser des ponts pour isoler davantage la région du Sahel.
L'invité.
Le programme d'encadrement des enfants de la rue Péder, une structure qui travaille sur la protection de l'enfant, forme depuis jeudi à Ouvira 20 acteurs locaux intervenant dans la protection de l'enfant. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Thomas Dakin Roubamboura, coordonnateur adjoint du PEDER Bukavu. Il s'entretient ici avec Fiston Goma. Suivez.
Bonjour, Thomas Dakin, vous retrouvez aujourd'hui à Ouvira. Sur quoi cet atelier porte-t-il?
L'atelier porte sur la formation sur la prise en charge psychosociale des enfants victimes des traumatismes, victimes des violences. Cette thématique a été choisie parce que c'est une thématique transversale dans les interventions de ces différents acteurs, de ces différentes organisations, parce qu'ils ont comme cible principale les enfants vivant dans la précarité, des enfants victimes des violences. Mais cette thématique a aussi un but parce que le regroupement de ces acteurs se trouve dans le cadre d'un travail synergique, d'un consortium, d'un réseau qui veut promouvoir l'accès à l'éducation pour les enfants en situation difficile, des enfants en situation de rue. Et donc, cette thématique a été choisie pour commencer un premier travail de formation, pour donner des capacités aux acteurs, mais pour continuer avec d'autres thématiques sur le plaidoyer, pour amener tout le monde, amener les décideurs, amener d'autres acteurs influents pour appuyer notre action, pour faciliter l'accès à l'éducation pour les enfants en situation difficile, les enfants vivant dans la précarité.
Ici, dans le sud-sud, au Virafizi, le moyen et au plateau, les enfants ont été affectés par des conflits armés, des conflits intercommunautaires. Est-ce que le projet prévoit une sorte de récupération de ces enfants pour les héberger ou bien les encadrer?
Le projet que nous sommes en train de piloter en ce moment, nous comme PEDER, c'est un projet d'abord qui appuie la possibilité de regrouper les acteurs. Le consortium réunit des acteurs sur un territoire plus vaste que ça. Les acteurs de la société civile pour le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. On a déjà organisé deux forums à Goma au Nord Kivu pour commencer un premier travail de regroupement et de mise en place du consortium, donc du réseau. À ce stade, le projet en cours appuie la possibilité de regrouper les acteurs, de les amener à réfléchir, à identifier les problèmes autour de la vie de ces enfants pour ceux qui est du secteur éducatif. Maintenant, on a réalisé cette tâche. On a le consortium qui est mis en place, on a les acteurs qui sont regroupés, on a défini un premier plan stratégique avec des actions de plaidoyer concrètes, je veux dire, qui seront menées pour mobiliser tout le monde, les décideurs et les autres acteurs qui sont influents sur la question de l'éducation pour faciliter le règlement de certaines questions qui posent problème. Les enfants qui ont dépassé l'âge de scolarité et qui ne peuvent plus accéder par exemple au circuit de l'éducation formelle, comment ils peuvent accéder aux différents centres qui sont en cours en ce moment, qui fonctionnent, pour apprendre les métiers et pour commencer à faire un travail, pour gagner un petit revenu. Ça veut dire, quelles sont les institutions qui appuient financièrement ces organisations, mais comment ces organisations peuvent aussi se mettre ensemble pour chercher des financements, pour appuyer les différents programmes. Donc on en est à un stade conceptuel, le consortium est mis en place et le plan d'action a été défini. Une des actions déjà aussi de ce plan d'action, c'est un peu ce genre de formation pour donner des capacités aux acteurs. Et on a choisi la thématique sur le soutien psychosocial parce que c'est une thématique transversale. C'est une action importante parce qu'il faut commencer par stabiliser les enfants psychologiquement, les rendre capables de se concentrer, d'apprendre quelque chose. Et après, les autres programmes vont continuer.
Qui sont les participants à cette formation?
Les participants à cette formation spécifiquement pour Ouvira, c'est des organisations des protections de l'enfant, des organisations qui, parmi les programmes qu'ils ont, ils ont les programmes d'éducation. C'est soit la formation professionnelle pour les enfants qui ont dépassé l'âge de scolarité, c'est soit aussi des programmes de réinsertion scolaire pour les enfants qui ont été récupérés dans la rue, qui ont interrompu le cursus normal de formation dans le secteur éducatif formel et qui sont envoyés dans les centres, qui prennent des cours de rattrapage et qui doivent retourner dans des programmes scolaires formels. C'est ces organisations de la société civile qui sont ici, mais c'est aussi les services publics comme les divisions, division des affaires sociales, division femmes et familles et enfants. Il y a aussi la police nationale dans sa section de protection de l'enfant qui sont présents. Et donc c'est aussi un cadre de coopération et de collaboration entre le secteur non gouvernemental, qui sont ces associations, avec les services publics de l'État qui ont en charge aussi la question de la protection de l'enfant et la question de l'éducation.
Thomas Daquin, merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.